moquerie et en même temps de le prendre au sérieux.
Oh, je suis qu'un gros tas. Oui, et j'en ai pas assez dans la tête pour le faire oublier aux femmes.
C'est peut-être les glandes.
Non, pas les glandes. Ma gueule, tout simplement.
Faut pas avoir peur des femmes. Elles sont pas empoisonnées.
On voit bien que vous n'en pensez pas un mot. Vous en avez bavé, mon vieux. Et je m'y trompe pas.
Mais après?
Tenez, je parie même que je sais ce qui vous travaille. Vous êtes intimide. Vous avez peur.
Peur?
C'est ça?
Peur. J'ai peur.
J'avais compté, je crois qu'il y a 8-9 adaptations, je crois, sur 21 longs métrages. Oui, il y en a beaucoup. Il y a aussi la rencontre avec Henri-Pierre Rocher, qui est essentielle, qui est une rencontre, on dirait aujourd'hui virtuelle, mais il rencontre d'abord le livre, Jules et Jim. Il est intrigué par le titre, et il achète, je crois, je ne sais pas exactement quand, mais ça doit être 55-56, et il écrit un texte dans Art sur Le Bandit de Une Mère, et il cite ce livre, qui n'a rien à voir. Harry Rocher est au courant qu'il y a comme ça un jeune mec qui serait intéressé à l'idée d'adapter un jour Jules et Jim. Bon. Après, il se passe du temps, il y a les 400 coups, il y a Jeanne Moreau qui apparaît dans les 400 coups, par l'intermédiaire de Jean-Claude Brialy, qui vient de la Nouvelle Vague, qui vient de Chabrol, qui fréquente les cahiers. Bon, il y a comme ça des liens qui se font. Truffaut pense réellement à Jules et Jim en pensant à Jeanne Moreau comme l'actrice qui pourrait interpréter Catherine. Il écrit à Henri-Pierre Rocher, qui est, je crois, à Meudon. Et la rencontre se fait. Et puis montre les photos de Jeanne Moreau. Et Rocher dit, oui, elle pourrait être une très belle Kate. Et puis, je crois que Rocher n'a même pas vu les 400 coups, parce qu'il est mort. Et Truffaut, ça c'est aussi un point très important, Truffaut est toujours fidèle à ses idées et aux gens qui sont liés aux idées qu'il a. C'est-à-dire qu'il est fidèle à Henri-Pierre Rocher. Et donc, dès qu'il pourra, il va faire Jules et Jim. Et Jules et Jim se fait dans des difficultés incroyables. Marcel Berber raconte qu'il va à Cannes chercher des financements. Ils ont du mal, un mal fou à trouver les financements. Bon, même si Jeanne Moreau est une grande vedette à l'époque. Et puis Jules et Jim a un énorme succès. Ouais.
À 15 ans, j'étais amoureuse de Napoléon. Je rêvais que je le rencontrais dans un ascenseur. Il me faisait un enfant et je ne le revoyais jamais. Pauvre Napoléon. On m'avait appris, petite fille, notre père qui est aux cieux. Et moi, j'avais compris notre père qui est aux cieux. J'imaginais mon père déguisé en bedeau barbu, faisant la quête devant le paradis. En principe, je viens de raconter une chose drôle. En tout cas, amusante. Vous pourriez, je ne sais pas moi, sourire. Oh là 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 là. Ouh. Est-ce que quelqu'un ici accepterait de me gratter le dos?
Gratte-toi le ciel de grattera.
Quoi?
Gratte-toi le ciel de...
Tiens! Avant de vous connaître, tous les deux, je ne riais jamais. Je faisais des têtes comme ça.
Effectivement, l'adaptation, est, quand on lit Jules et Jim, c'est le film, bien sûr, mais le livre lui-même est un livre construit à partir de correspondances. Et Truffaut, vraiment, là, on a tous les éléments à la Cinémathèque, tous les archives de Truffaut montrent. Les livres sont raturés, sont coupés, il entoure les paragraphes. Le livre devient un matériau du film, un matériau préfigurant le film. C'est vraiment, c'est pas du tout, on n'est pas dans la fidélité, on n'est pas dans le respect de l'œuvre, on est dans le traitement, quoi. Il traite et le maltraite s'il le faut, mais il en tire la force cinématographique, la force de l'écriture, avec cette voix off complètement ahurissante, quoi, qui va à une vitesse folle. Je défie quiconque de comprendre ou d'entendre réellement tout ce que dit la voix off au début de Jules et Jim. Ça va à une vitesse. Moi, ça me fait penser. C'est Scorsese a fait pareil dans ses films. On a le sentiment que la voix off, elle va très très vite. Principe d'accélération, presque de brutalité avec le matériau, quoi. Et puis à un moment donné, ça libère la fiction, ça libère les personnages, ça leur donne leur envol, quoi. Mais qu'au début, il y a besoin de cette énergie condensée à travers la voix off qui fait qu'à un moment donné, les choses se mettent en place. Mais ça va très très vite, quoi. Le cinéma prend le pouvoir sur la littérature, nécessairement.
C'était vers 1912. Jules Étranger à Paris avait demandé à Jim, qu'il connaissait à peine, de le faire entrer au bal des Quatre Arts. Jim lui avait procuré une carte et l'avait amené chez le costumier. C'est pendant que Jules fouillait doucement parmi les étoffes et se choisissait un simple costume d'esclave que naquit l'amitié de Jim pour Jules. Elle grandit pendant le bal où Jules fut tranquille avec des yeux comme des boules, pleins d'humour et de tendresse. Le lendemain, ils eurent leur première vraie conversation, puis ils se virent tous les jours. Chacun enseignait à l'autre jusque tard dans la nuit sa langue et sa littérature. Ils se montraient leurs poèmes et les traduisaient ensemble. Ils avaient aussi en commun une relative indifférence envers l'argent, et ils causaient sans hâte, aucun des deux n'ayant jamais trouvé un auditeur si attentif. Jules n'avait pas de femme dans sa vie parisienne et il en souhaitait une. Jim en avait plusieurs. Il lui fit rencontrer une jeune musicienne, le début sembla favorable, Jules fut un peu amoureux une semaine et elle aussi, puis ce fut un joli bout de femme désinvolte qui tenait le coup dans les cafés mieux que les poètes jusqu'à 6 heures du matin. Une autre fois, ce fut une jolie veuve toute blonde, ils eurent des sorties à trois, elle déconcertait Jules qu'elle trouvait gentil mais ballot, et amena pour lui une amie placide, mais Jules la trouva placide. Enfin, malgré l'avis de Jim, Jules prit contact avec des professionnels mais sans y trouver satisfaction.
Grand succès, vous l'avez dit, mais aussi polémique, parce que à cette époque-là, on pourrait presque dire que dans l'adaptation que Truffaut a faite de ce roman, il y a une espèce de préfiguration de 68.
Non, ça ramène plutôt à ce qu'a été, au début du siècle, la vie de Henri-Pierre Hoché, son amitié avec Duchamp, le côté collectionneur, le côté dandy, le côté libertin, qu'il y a eu avant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que nous, on n'a pas trop conscience de ça, parce qu'on ne s'est peut-être pas trop intéressé à ça. Ça a été sans doute une période aussi de grande liberté, quoi. Pour ces figures de la bourgeoisie qui n'avaient pas besoin de travailler, qui voyageaient, qui étaient souvent diplomates, qui étaient artistes, Duchamp, etc. Et qui aimaient les femmes. Et qui arrivaient à vivre en marge de la société, mais que la société a toléré. Voilà, avec des relations avec des écrivains, des peintres, des artistes, des marchands d'art, New York, Paris. Les avant-gardes, voilà. C'est plutôt ça chez Truffaut. C'est pas 68, Truffaut, c'est pas très... Ça l'a amusé. Il a été voir comme ça un peu en badaud. Il a pas pris position réellement. Hein. Il était plutôt pour la contestation, mais pas... C'est pas un forcené de la contestation, Truffaut. Parce que Truffaut a toujours été quelqu'un de décalé dans l'histoire. Enfin, c'est ça qui m'a frappé. Ça se voyait quand on le croisait, quand on le rencontrait. Il était... Quand tout le monde était habillé en hippie, moi-même en 71, 72, on était habillé un peu comme ça, peace and love. Lui était en costume cravate. Truffaut était, pour moi, toujours été quelqu'un, non pas du passé, mais le passé chez Truffaut avait beaucoup d'importance, quoi. Le passé. Il avait une façon de regarder derrière lui qui je trouve très, très intéressante. Et pas tellement devant.
Tiré sur le pianiste et Jules et Jim, la troisième adaptation d'un roman par François Truffaut, ce sera en 1966 avec Fahrenheit 451 d'après Ray Bradbury.
Dites-moi, pourquoi brûlez-vous les livres ?
Comment ? Ah, eh bien, c'est un métier excellent, un métier plein de diversité. Le lundi, on brûle Miller, le mardi, Tolstoï, une autre fois Shakespeare, puis c'est Faulkner. Et un samedi, ce sera Schopenhauer et Sartre. Les réduire en cendres et brûler les cendres, voilà notre slogan officiel.
Je vois que vous n'aimez pas les livres.
Aimez-vous l'orage?
Oui, j'adore l'orage.
Moi, je dis que les livres n'ont aucun intérêt. Ils se contredisent tous.
Alors, je ne comprends pas pourquoi on les lit, puisque c'est si dangereux.
Précisément parce que c'est défendu.
Mais pourquoi est-ce que c'est défendu?
Parce que les livres ne font que du mal.
Vous croyez vraiment ce que vous dites?
Oh oui. Ils troublent l'ordre public, ils empêchent le progrès social.
Fahrenheit, un film, disons, de science-fiction, une adaptation de Bradbury, mais même là, on voit bien que ce que Truffaut veut protéger, c'est l'amour des livres. Mais quand je dis les livres, c'est à la fois les œuvres, mais les livres comme support, enfin les matériaux eux-mêmes, le livre. Truffaut, il aimait l'objet, quoi. Il aimait l'objet parce que ça lui rappelait son enfance, mais c'était sacré, quoi. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre du sacré.
quand il aimait un livre, il en achetait 10, il les envoyait à des gens, il lisait ça, enfin, il offrait des livres, il voulait partager ses goûts, son amour des livres, quoi. Il écrivait des lettres à la main. Moi, j'ai toujours senti ça chez lui, dans son œuvre, dans sa façon d'être, dans son repli professionnel. Et puis quand on voit les archives, quand on a découvert les archives de Truffaut une fois qu'il est mort, on a compris, quoi. Il gardait tous les factures. Quand il achetait des costumes chez Lanvin, il achetait pas un, mais plusieurs. Les chemises, pareil. Les chaussures, pareil. Tout pareil, quoi. Les ordonnances, il gardait tout. Il y avait une sorte d'obsession de la mémoire et du fétichisme le concernant, qui est quand même un trait de folie, quoi. Et un jour, je me souviens, Catherine Deneuve me dit, mais il n'aurait pas, elle m'a dit ça, et on s'est un peu affronté même. Puis François n'aurait pas aimé qu'il y ait une biographie sur lui. Je lui ai dit, mais Catherine, il suffit d'aller dans ses bureaux, il a tout gardé de lui. Tout gardé de lui. Des cartes postales de 45, la correspondance avec Hélène Scott, il a des dossiers sur tous les cinéastes, dossier Cocteau, dossier Romère, dossier Godard, dossier Chaplin, dossier Lang, dossier Murnau, enfin, des dossiers sur tout le monde. Il gardait la presse, les coupures, les journaux américains, les revues américaines. Tout était matériaux, quoi. Tout était traces.
Il y a des gens qui arrivent à faire de la mise en scène avec un entraînement extrêmement ardu.
Jean Renoir.
L'entraînement extrêmement ardu, Truffaut l'a eu. Mais en même temps, il était tellement doué pour ça, ça se voyait, ça se sentait. Ça se sentait dans la conversation. Ça se sentait lorsqu'on parlait d'un film et qu'il faisait remarquer tel et tel détail de ce film. Ça se sentait dans ses articles. On se disait, il écrit, et j'adore lire ce qu'il écrit, c'est courageux, et puis c'est amusant, toujours. Ce qui est, à mon avis, une très grande qualité. Il a appris à faire des films en regardant des films. Il voyait, je ne sais pas combien de films par semaine, des dizaines. Et c'est à force de voir des films qu'il s'est assimilé, sans que ce soit théorique, la technique des plus grands maîtres. Là où j'ai été le plus amicalement jaloux de Truffaut, c'est dans Juliet Jim. Je me suis vraiment dit, ah là là, comme c'est bien, comme je voudrais avoir fait ça. Il y avait certains plans, je mourais de jalousie. Je me disais, c'est pas lui qui aurait dû le faire, c'est moi.
Pour un biographe, c'est un cadeau empoisonné, parce qu'on ne sait plus où donner de la tête.
Il y a des fausses pistes, c'est bourré de fausses pistes, et on peut faire plein d'erreurs, on peut se planter complètement, on peut prendre des voies qui ne sont pas les bonnes, on peut créer des malentendus, on peut le trahir, il faut faire attention. Là-dessus, je suis assez vigilant, mais parce qu'on peut se tromper sur Truffaut. On peut le tirer vers quelque chose qui n'est pas lui, on peut le tirer justement vers trop de modernité qui n'est pas son penchant réel, ni artistiquement ni biographiquement. C'est quelqu'un qui était dans une certaine mesure, et Dieu sait s'il a été de l'avant, il a voulu vraiment bousculer les règles du jeu, etc. Et il a réussi pleinement, je pense qu'il a vraiment pleinement réussi, comme critique, il a pleinement réussi à imposer une nouvelle façon de voir et d'écrire sur le cinéma. Après, la comparaison que tout le monde a voulu faire avec Godard, elle me semble pas du tout pertinente, quoi. Pas intéressante. C'est comme si on comparait deux peintres de deux époques différentes, l'un à l'autre, deux écrivains qui n'ont pas grand-chose à voir. C'est deux manières totalement autonomes d'envisager les choses.
D'ailleurs, d'une manière générale, la nouvelle vague, c'était autant d'individualité et de formes cinématographiques différentes qu'il y avait de personnes.
Bien sûr. Après, ce qui est intéressant, c'est les admirations réel. Truffaut admirait beaucoup Romère, ça je crois que c'est vrai. Et Romère aussi d'ailleurs beaucoup. Je me souviens, j'avais filmé Romère, j'avais fait un film sur Truffaut avec Michel Pascal en 92, et on avait convaincu Romère de venir être filmé au film du Carrosse. Dieu sait s'il ne voulait pas être filmé. J'avais réussi à le convaincre. Je lui ai dit, vous savez, il y a un dossier sur vous. Ah bon, il y a un dossier sur moi. Je lui dis, oui, il y a un dossier sur vous, Eric. Et on l'a filmé en train d'ouvrir le dossier. Donc de découvrir ce que Truffaut gardait sur Homer.
Eh bien, je vois que François avait beaucoup d'ordres. Et il y a également un dossier pour, je pense, beaucoup d'autres personnes, pour tous ces amis cinéastes. Je me demande ce qu'il peut y avoir dans un dossier aussi gros, parce que personnellement, moi, je n'ai pas de dossier François Truffaut, et ce qui concerne Truffaut n'est pas du tout classé sous son nom. Enfin, il a mentionné le Malichaud, c'est normal, mais il a des journaux. Je regarderai ça plus tard, mais pour l'instant, je vois qu'il a. Alors ça, je me demande pourquoi, d'ailleurs. Parce qu'il n'a pas participé à ses films, le jeune Leclerc, Perceval le Gallois. Je me souviens l'avoir rencontré un jour dans la rue, et il m'a demandé qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je préparais, et je lui ai dit Perceval, mais c'est tout ce que j'ai dit, tout ce que nous avons dit de Perceval ensemble. Alors, Une femme douce, oui, effectivement, c'est un scénario que j'ai jamais tourné. Une femme douce, d'après Dostoïevski, Le signe du lion, effectivement.
Il y avait des documents, des revues, des articles, mais il y avait aussi un début de scénario, écrit à la main, co-écrit par les deux. Ils avaient donc une complicité, vous voyez, pour vouloir faire un film ensemble. Et Truffaut admirait beaucoup Homer, quoi, sur l'indépendance, l'économie, l'œuvre, quoi, la cohérence de l'œuvre. Voilà. Et moi, je retourne ça pour Truffaut. Ce qui me plaît chez Truffaut, c'est la cohérence de l'œuvre, quoi. C'est une œuvre cohérente. Il n'y a pas un objet, une pièce de cette œuvre qui soit dans la distorsion par rapport aux autres. Les films de Truffaut constituent une famille qui font œuvre, quoi. Bon, on peut le dire de beaucoup d'autres, mais pas de tous. Voilà. Mais il n'y a pas un film de Truffaut qu'il a fait contraint et forcé parce que par l'économie, les besoins de se refaire, les impôts, ce que je sais, alors que Chabrol le dit toujours en se marrant, j'ai dû faire ça pour payer mes impôts, mais et ça se voit d'ailleurs. Et ça ne discrédite pas pour autant la cohérence de Chabrol, qui est un grand cinéaste. Mais chez Truffaut, non, il y a un sentiment de maîtrise qui n'en est pas vraiment un, parce que je ne pense pas qu'il maîtrisait réellement les choses, et ce n'est pas intéressant de maîtriser les choses quand on est cinéaste, quand on est un artiste, disons. Mais il y a une cohérence, quoi. Le parcours est logique, quoi. Avec des points, des contrepoints. Musicalement, on peut dire, il y a des points, des contrepoints. Mais on trouve une thématique qui est l'idée que l'homme est enfermé. L'homme est fragile, l'homme il est enfermé. Et souvent, il fait appel à une femme pour faire ce que lui ne peut pas faire. Bon, c'est par exemple, Vivement Dimanche, qui n'est pas celui que je préfère, c'est ça. Trintignant est enfermé et se sert de Fanny Ardant comme d'une Amazone qui va aller démêler les fils de l'intrigue. Voilà, bon, ça, et puis évidemment, la relation d'amour et de séduction est à la base de ça.
Pourquoi est-ce qu'une femme qui est majoritaire dans une affaire de boîte de nuit irait s'emmerder à tenir la caisse d'un cinéma déficitaire? Cette femme est au cœur du problème, c'est certain. Je vais aller la trouver.
Ah non, vous êtes fou! Votre photo a été distribuée à tous les flics du département. Non, moi je vais y aller.
Mais non, mais vous ne saurez pas quoi lui dire. Et puis, elle vous connaît, elle se méfie de vous.
Ah, mais je vais pas aller la voir, elle. Je vais m'introduire dans son appartement puisque je sais où elle habite.
Non, non, si cette femme a servi de prête-nom, il y a certainement un dossier caché chez elle. Moi, je saurais le trouver.
Et pourquoi je saurais pas le trouver? Vous me prenez vraiment pour la dernière
découverte. Oh, écoutez, Barbara, vous commencez à m'échauffer les oreilles. Qui est accusé de meurtre?
Vous savez comme ça depuis que je suis rentrée. Tout ça, le boulot, c'est pour moi quand il y a un truc.
Je vous ai interdit de crier.
Oh. Qui ça peut être?
Dernier métro, voilà, il y a un homme de théâtre juif sous l'occupation qui est enfermé, sa femme est au-dessus, elle le protège, puis elle tombe amoureuse d'un jeune acteur qui va devenir une vedette, et puis elle met en danger à la fois son couple, son entreprise théâtrale, et puis voilà, mais donc c'est le conflit entre la femme qui protège et la femme passionnelle, quoi. Bon, l'homme qui aimait les femmes, c'est un homme, il est handicapé par sa passion amoureuse, Charles Denner, qui pour moi est Truffaut, vraiment, physiquement... Il est handicapé par sa propre pulsions, sa propre passion, sa propre obsession des femmes. Et ça en fait un homme fiévreux qui, tout d'un coup, trouve dans l'écriture romanesque une manière d'alléger sa souffrance, quoi, dans l'amour. Il souffre d'être amoureux tout le temps et de vouloir conquérir toutes les femmes, quoi. C'est pas un Don Juan, il ne triomphe pas. C'est pas un homme qui triomphe, c'est un homme qui doit vivre avec cette passion.
Elles sont des milliers tous les jours à marcher dans les rues. Mais qui sont toutes ces femmes? Où vont-elles? À quel rendez-vous? Si leur cœur est libre, alors leur corps est à prendre. Il me semble que je n'ai pas le droit de laisser passer la chance. La vérité, je vais vous la dire, elles veulent la même chose que moi. Elles veulent l'amour. Tout le monde veut l'amour. Toutes sortes d'amour. L'amour physique et l'amour sentimental, ou même simplement la tendresse désintéressée de quelqu'un qui a choisi quelqu'un d'autre pour la vie et ne regarde plus personne. Je n'en suis pas là, moi. Je regarde tout le monde.
En dépression, Truffaut, il est très malheureux au début des années 70, suite à sa rupture avec Catherine Deneuve. Il est dans une clinique de sommeil, il est vraiment... il est KO, quoi. Et puis là, tout d'un coup, la guérison, pour lui, viendra par un film qui ne traite que de la maladie de l'amour, quoi, qui est Les Deux Anglaises, qui est un film que moi, je trouve être un de ses plus beaux films.